Laura Alcoba, un imaginaire clandestin.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Les questions douloureuses sont celles auxquelles habituellement on ne pense pas. Sous quel nom êtes-vous né ? Dans quel lieu êtes-vous né ? Les réponses de Laura arrivent et circulent en forme de récit, remplis de lapins, d'abeilles, d'araignées, de tout un monde souterrain issu d'un imaginaire clandestin, celui d'une enfant d'opposants à la dictature argentine dans les années 60-70. S'ensuit l'exil en France et la passion pour les « e » muets. S'ensuit aussi une inclination pour des récits qui inscrivent les survivants de cette dictature du côté des vivants et des souvenirs qui jamais ne s'essoufflent. Chez Gallimard, on ne présente presque plus Laura Alcoba, autrice et traductrice à plus d'un titre. Après notamment Manège, petite histoire argentine, Les passagers de l'anacée, Le bleu des abeilles et La danse de l'araignée, Alcoba enquête sur un infanticide à la Médée commis par Griselda dans son nouveau roman intitulé Par la forêt. Beaucoup de petits cailloux hein, pour vous accueillir, Laura Alcoba. Vous allez bien ?
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vais bien.
Et si on commençait avec une chanson que vous avez programmée pour en sol majeur intitulée « La Marelle » à Marina, interprétée par Dom Lanena et Rosemary Stanley, alias « Birds on Wire ». Est-ce que ça vous rappelle un bout d'enfance ?
Oui, j'adore cette chanson, j'adore la rencontre des langues en général et l'univers de l'enfance me parle et j'adore ces voix qui sont magnifiques. Donc je suis très heureuse de ce premier choix.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Le jeu de la marelle est fini sur RFI car il nous faut embarquer quelques secondes à bord de ce roman « Les passagers de la nacée » où page 78, Laura Alcoba, vous écrivez ceci.
L'homme en civil, Manuel s'en souvient, attira aussitôt son regard. pas seulement parce qu'il était le seul à ne pas porter l'uniforme. Il n'avait rien de très particulier, a priori. De taille moyenne, assez robuste, presque gros dans son souvenir, avec des lunettes carrées, alourdies par une monture sombre et épaisse. Ce qui intrigua Manuel, c'est la manière dont il les avait regardés. Dès qu'il était arrivé dans la caserne, même lorsqu'il se tenait à l'écart avec El Practico, il n'avait cessé de les examiner avec une attention étrange, de les détailler. Plusieurs fois, il les avait regardés dans les yeux, longuement, de manière appuyée, comme si, au-delà de leur corps et de leur apparence, il avait voulu voir en eux. Ce qui le frappa aussi, c'est qu'il ne posait pas les yeux sur les quelques femmes qui se trouvaient là. Ce qui est pour le moins inhabituel chez les Cubains, qui portent toujours un regard admiratif, déférent même, sur les seins et les fesses qui se trouvent à proximité. Cet homme était différent. Il était venu pour autre chose. Il cherchait des soldats, des hommes, et il était en train de les choisir, c'était évident, aussi évident que c'était lui, le Che.
Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz.
La voix fameuse de Che Guevara, donc là, lors de la conférence aux Nations Unies, c'était en décembre 1964. Et le Che, comme je l'ai lu sous votre plume, Laurent Alcoba, il avait cette phrase, il disait « La guérilla doit encercler l'ennemi et l'attaquer depuis des points différents, depuis quatre points différents très exactement, mais alternativement, de manière à l'obliger à danser une sorte de menuet. » Et Manuel et Soledad, vos parents, ont, je crois, bien dansé le menuet.
Ou essayé, disons.
Ils ont rêvé de ça.
Voilà, ils étaient très jeunes. Pour écrire Les Passagers de la Nacée, j'ai travaillé sur la mémoire, mais leur mémoire. Et oui, donc ils sont allés à Cuba alors qu'ils étaient très très jeunes. C'est presque une fugue adolescente en réalité.
C'est presque Roméo et Juliette au pays de la Révolution.
Un peu, oui, tout à fait. Oui, parce que les parents de ma mère s'opposaient à cette relation qu'elle avait avec un jeune homme qui n'était pas du même milieu et qui avait le désir de changer le monde. Et donc ils sont partis tous les deux clandestinement avec d'autres pour Cuba.
Alors, je viens de commettre un petit anachronisme là dans l'organisation de ce début dans Sol majeur, parce que vos parents, donc jeunes apprentis guérilleros, oui, partent en exil après la mort du Che en 68. Vous avez lu un extrait des Passagers de la Nacée. Qu'est-ce qu'était la Nacée ?
La Nacée est le navire à bord duquel ils sont retournés en Argentine depuis l'Italie. C'était pas un exil, non. Ils retournaient au pays après l'expérience cubaine. Ce qui est très étrange, c'est que le chemin le plus court pour passer de Buenos Aires et de La Plata à La Havane passait à ce moment-là par l'Europe, par Prague. Donc, d'où ce très long voyage, puisqu'il fallait franchir le rideau de fer. À la fois à l'aller et au retour, après leur expérience cubaine, ils sont passés par l'Europe. Et la Nacée est le bateau à bord duquel ils sont retournés après leur aventure cubaine.
Vous pouvez me donner votre document ?
Est-ce que vous pouvez me présenter vos papiers ?
Oui, c'est une question qui peut renvoyer à une forme d'autorité d'État, presque. Aujourd'hui, que la question notamment des migrants est très présente dans notre actualité. Mais dans votre cas à vous, Laura, les papiers renvoient à cette question d'identité qui est assez complexe. Où êtes-vous née et sous quelle identité ?
Je suis née à La Havane, ça je le sais. Sous quelle identité, je ne sais pas, je l'ignore. Je suis arrivée en Argentine très très tôt et j'ai été inscrite comme étant née en Argentine. Donc à tout jamais, j'ai cet acte de naissance qui est un vrai, mais un faux, je ne sais pas. Je suis née dans la clandestinité, dans cette parenthèse de l'itinéraire de mes parents. Je ne sais pas sous quel nom j'ai été enregistrée à La Havane. si tant est que j'étais enregistrée. Je ne pense pas, parce que c'était des circonstances très particulières. Ma mère est tombée enceinte, donc dans cet épisode révolutionnaire, et ce n'était pas prévu.
Et vous êtes née en 68, l'année
oui.
révolutionnaire par excellence.
L'année révolutionnaire par excellence, oui.
Et vous êtes, je l'ai lu sous la plume d'une journaliste du Monde, vous êtes donc la plus jeune clandestine de la littérature. J'aime beaucoup cette idée. Donc vous avez enquêté, vous le disiez, et la question c'est comment reconstituer le parcours de deux clandestins qui étaient vos parents.
C'est très compliqué parce qu'il y a très peu de traces et c'est comme si les mémoires avaient cherché à oublier ou à effacer les traces aussi derrière elles. Donc pour reconstituer cet itinéraire, il m'a fallu écouter. J'étais confrontée à de sérieuses contradictions par moments et donc entre ces contradictions, j'essayais de trouver un chemin qui est le chemin du livre Les Passagers de la Nacée, avec parfois des doutes, avec des peut-être, souvent. Mais il y a d'autant plus de difficultés qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie après, dans les années 70 en Argentine, puisque ces jeunes révolutionnaires ont intégré assez vite des mouvements parmi lesquels il y a eu les premiers disparus.
Oui. Est-ce qu'il vous a fallu passer par le témoignage ou le regard d'un certain Régis Debray qui a été
oui,
compagnero du Che?
Aussi. Et il m'a accueilli, je dois dire, avec beaucoup de générosité.
En vous disant quand même, qu'est-ce que tu vas raconter dans ton roman?
Oui, et il m'a envoyé immédiatement quelques mots que je n'oublierai pas, qui étaient « Je vous remercie d'avoir levé le voile sur une époque encore silencieuse. »
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa, me siento una cuna, una madre carta. Un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban.
Je suis grande, je n'ai que 7 ans, mais tout le monde dit que je parle et raisonne déjà comme une grande personne. Ça les fait rire que je connaisse le nom de Firmenich, le chef des Montoneros, et même la marche des jeunesses péronistes par cœur. Moi, on m'a tout expliqué. J'ai compris et j'obéirai. Je ne dirai rien. Même si on venait à me faire mal, même si on me tordait le bras ou qu'on me brûlait avec un fer à repasser, même si on me plantait de tout petits clous dans les genoux. Moi, j'ai compris à quel point il est important de se taire.
Silencio, la salma.
Voilà ce que vous écrivez dans Manège, petite histoire argentine, Laura Alcoba, c'est-à-dire l'entrée en clandestinité à La Plata d'une petite fille de 7 ans. Car dans ce livre, votre plume raconte à hauteur d'enfance, cette enfance privée d'enfance. Et ça, c'est un choix important qui remet peut-être les adultes et les enfants à leur place.
Oui, c'est mon tout premier livre et il était pour moi très important de commencer par cette enfance sans enfance, c'est vrai. C'est aussi une enfance, c'est ça qui est paradoxal.
C'est votre enfance.
Oui. Quand j'ai commencé à mettre par écrit ce qui m'était resté de cet épisode, j'avais une voix d'enfant qui apparaissait. Donc c'était ces images brutes de vie dans la clandestinité, dans cette maison, il y avait une imprimerie clandestine.
Donc ça, c'est dans la maison au lapin,
voilà.
Initialement nommée comme ça. Qu'est-ce que c'est
tout
que cette histoire
fait.
De maison au lapin?
Donc j'ai vécu quelques mois qui ont énormément compté pour moi dans une maison où vivait un couple militant. Dans cette maison, nous avons été accueillis avec ma mère. Ma mère, à l'époque, était recherchée très activement. Mon père venait d'être arrêté. Prisonnier politique, et ma mère avait pu échapper à cette arrestation, et donc elle se cachait, elle était vraiment en fuite. Et nous avons été accueillis, ma mère et moi, dans cette maison. Il y a eu, nous avons assisté à la naissance d'une imprimerie clandestine où étaient imprimés des journaux interdits. Et cette imprimerie clandestine, qui était cachée, hein, on y accédait par une porte qui s'ouvrait de manière assez mystérieuse grâce à un mécanisme électrique très sophistiqué, eh bien, cette pièce se trouvait derrière un élevage de lapins. Le mouvement avait eu l'idée d'installer là un élevage de lapins pour justifier les allées et venues qui étaient en réalité dictées par la présence de l'imprimerie.
Maison au lapin que vous comparez à la lettre volée d'Edgar Poe.
Tout à fait. Oui, parce que l'idée, c'était que peut-être la meilleure manière de se cacher, c'était de faire comme si on ne se cachait pas. Et dans cette maison, j'ai eu 7-8 ans. C'était quelque chose de très étrange que j'avais vécu, de très angoissant aussi, parce que dans cette maison, nous étions tous en danger de mort, et ça, je le savais.
Ce qu'on comprend, c'est que, je vous coupe, Laura, c'est que vous avez beau être une enfant de 7 ans, vous comprenez la situation.
Ah oui, mais c'est pas que je comprenais, c'est que je devais la comprendre, parce que bien entendu, il fallait que j'assume le fait d'avoir un faux nom, de ne pas parler des journaux si j'allais à l'extérieur, etc. Et c'était bien entendu une situation très difficile à gérer pour une petite fille. Et il se trouve que nous avons vécu dans cette maison jusqu'au mois d'août 76. Ma mère a réussi à quitter l'Argentine, à venir en France. Moi, je suis restée à ce moment-là chez mes grands-parents. Mais cette maison a été effectivement attaquée par les militaires plus tard de manière extrêmement violente. Et toutes les personnes avec lesquelles nous avons vécu ont trouvé la mort quelques mois après.
Qu'est devenue la maison au lapin ?
Elle est devenue un lieu de mémoire. Mais lorsque j'y suis retournée pour la première fois, en 2003, ce n'était pas encore un lieu de mémoire. Et il y avait encore les traces des impacts des balles, le trou de mortier qui transperce encore la façade. Et une association de jeunes étudiants dans l'histoire venait de se constituer autour de la maison pour en faire un lieu de mémoire, juste au même moment, c'est bizarre.
Non ?
Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations.
Oui,
je ne suis pas obligé d'aller. Je ne vais pas apprendre mes leçons à l'étranger.
C'est pas ce que j'ai dit. Dans ma petite tête, je
Par
me
contre,
souviens.
Quand je vais à l'étranger, je discute, j'écoute, etc. Ouais. Mais je suis quand même. Je sais, je ne suis peut-être qu'un ouvrier à vos yeux. Mais je suis un militant ouvrier qui, avec mes camarades intellectuels dans son parti, est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout.
M comme Moulin Rouge.
Car après la maison au lapin à La Plata en Argentine, vous pliez bagages, donc vous le disiez, Laura Alcoba, avec votre mère, direction la France, mais pas la France de la capitale, la France du Blanc-Ménil, donc en banlieue. C'est une petite déception, notamment pour les copines restées en Argentine qui attendaient les cartes postales de vous devant la Tour Eiffel. Et en même temps, vous êtes au pays des balançoires, des crêpes sucrées et de Georges Marchais, qu'on vient d'entendre.
J'étais absolument fascinée par la manière dont on parlait de politique à la télévision, parce que je venais d'un pays où toute la parole publique était mesurée,
censurée
et très apprêtée, et que tout d'un coup on puisse débattre, s'emporter, je ne l'avais jamais vu.
Alors évidemment, toute une immersion linguistique notamment, dans cette vie française, se mettent en place. J'aimerais qu'on écoute un extrait ensemble de votre roman Le bleu des abeilles.
Dès que je suis seule, pourtant, devant le miroir de la salle de bain, je m'entraîne à prononcer des mots compliqués, avec plein de R, des voyelles sous le nez, des G et des S entre deux voyelles, ceux qui grésillent et qui font comme des chatouilles au niveau du palais, arrosoir, paresseuse, gélatine, raison, raisin, raisonne. Je m'entraîne aussi à prononcer à toute allure des mots avec des U, tu, tordu, mordu, pointu. Et même des U tout seul, de très longs U que je fais durer le plus longtemps possible jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle. Pour les U du temps de mes cours à La Plata, Noémie m'avait donné une astuce. Placer les lèvres comme si l'on voulait dire Mais dire « i », tu verras, ça marche.
Et on peut dire, Laura Alcobac, cette immersion linguistique dans les mots compliqués est pour vous, on parle de la petite fille que vous êtes à ce moment-là, c'est pour vous moins difficile que de parler directement aux autres petits Français.
Oui, je jouais d'abord à entrer dans la langue, à danser avec la nouvelle langue qu'il me fallait maîtriser. Et oui, l'Argentine, tout le passé et puis quelque chose qui en même temps faisait partie de ma vie beaucoup, qui était la correspondance que j'avais avec mon père, mmh. resté en prison, mmh. et bien tout ça n'entrait pas du tout en ligne de compte lorsque j'étais avec les enfants de mon âge. Je jouais avec la langue française qu'il fallait que j'apprivoise, qu'il fallait que je fasse mienne, et c'était, voilà, il y avait comme deux mondes qui ne se rencontraient pas.
Vous ouvriez une porte, celle de la littérature et de la culture française. Je ne sais pas si vous étiez en train d'en refermer une autre, celle de l'Argentine.
Je crois pas. Je crois que je passais de l'une à l'autre. De la même manière que pendant longtemps, je suis passée de la clandestinité au monde extérieur. Et bien là, j'avais ces deux hémisphères qui cohabitaient.
Oui. Et c'est une immersion un peu radicale, hein, notamment dans votre goût pour la littérature. Quand vous allez à la bibliothèque, vous avez des lectures extrêmement choisies. Vous ne lisez pas Tintin, Astérix et tout ça.
Non, mais ça, je crois que mon père y est pour beaucoup.
La vie du petit Nicolas, par exemple. Niette.
Il mettait la barre très haut. Il voulait que j'apprenne le français. Il m'en parlait dans ses lettres qui venaient de la prison de La Plata où il était. Et pour moi, ces lettres montraient le chemin, ce que je devais faire. Je suivais scrupuleusement ses conseils et ses conseils étaient d'une grande ambition, parfois écrasante. Il me conseillait souvent de lire des livres auxquels je ne comprenais pas grand-chose en réalité, mais je les lisais quand même.
Cette immersion, en tout cas, est signe d'un désir d'assimilation absolue, c'est-à-dire que vous vouliez faire française.
Oui, mais je crois que ça venait aussi beaucoup des injonctions de mon père dans ses lettres. Il fallait que je m'imprègne de la culture avec un immense C. Et donc, il me disait, est-ce que tu es allé au Louvre? Est-ce que tu as vu des châteaux, les châteaux de la Loire? Et en même temps, le reste continuait, mais avec une forme de séparation entre les deux.
L'Argentine, qui est bien un pays et pas qu'une station de métro parisien sur la ligne 1, ça fait référence à une anecdote, une vraie apparemment.
Oui.
Elle est bien présente, effectivement, cette Argentine, notamment à travers les lettres que vous échangez donc avec votre père, toujours prisonnier politique en Argentine. Ce sont des lettres, pour lui d'abord, très codifiées.
Oui, parce que cette correspondance, elle était soumise au regard de l'administration pénitentiaire. Ces lettres étaient lues avant de quitter la prison et les miennes, elles étaient lues avant d'arriver jusqu'à lui. Donc, le régime de parole surveillée, on n'en sortait pas. J'écoutais Georges Marchais fasciné à la télé et en même temps, quand je me mettais devant la page blanche pour écrire à mon père, je savais qu'il était impossible de poser des questions sur ce qu'il vivait, sur sa réalité. Et puis, le passé, on ne l'abordait pas. Donc, de quoi allait-on parler? Il y avait des règles à respecter.
Du coup, des échanges presque surréalistes. Hein. Vous dites, ce que j'aime bien dans les lettres avec mon père, c'est parler des abeilles et des couleurs auxquelles elles sont sensibles.
Alors, il a eu l'idée, lui, que nous lisions un même livre en même temps, pour qu'on ait quelque chose, un espace. Mmh. Et un des premiers livres qu'il a eu comme ça, l'idée que nous lisions de cette manière, lui en espagnol et moi en français, c'est La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. Pourquoi? Parce que Maurice Maeterlinck, c'est un grand auteur belge, prix Nobel. Alors, ça doit être du bon français. Donc lui, il avait demandé à ma grand-mère de lui porter le livre en espagnol. Et moi, je le lisais en français et nous parlions de ce livre.
Et plus tard, donc après les abeilles, toujours dans la correspondance de votre père, il y aura les migales.
Oui.
Avec un rituel fascinant, je trouve, celui de la migale apprivoisée. Ça donnera votre roman La danse de l'araignée.
Oui.
Vous pouvez nous résumer ce rituel?
Oui, donc mon père me racontait des histoires dans ses lettres. Et une des histoires qu'il m'a racontées, il avait entendu parler d'un homme qui avait comme animal de compagnie une araignée qu'il gardait dans une cage. Et chaque fois qu'il rentrait chez lui, l'araignée le reconnaissait voilà, il y avait un lien qui s'était établi entre les deux. Et l'homme, alors, ouvrait la cage de l'araignée et jouait avec elle comme on joue avec un petit chien ou un petit chat. Voilà l'histoire. Et à partir du moment où mon père m'a raconté cette histoire, moi, j'étais absolument fascinée par ce qu'il m'avait raconté. Je voulais absolument aussi avoir une araignée pour avoir cette même relation. Mais je voulais une araignée des Andes. Donc, il fallait une araignée argentine, parce que seules les araignées argentines pouvaient avoir un lien semblable et devenir un animal de compagnie attachant, affectueux.
En tout cas, c'est une métaphore peut-être du lien, sur le lien, oui. La question du lien et sur éventuellement la liberté.
Bien sûr.
J'ai vu qu'en exergue de ce roman, il y a la phrase de Gérard de Nerval qui annonce sans doute votre démarche d'auteur Laura Alcoba. C'est une image que je poursuis, rien de plus.
Oui. Alors ça peut se lire de différentes manières. D'abord, j'adore Gérard de Nerval. Il est souvent présent, il m'accompagne beaucoup.
Papa a bien travaillé.
Bon, ça veut dire plein de choses, en fait, pour moi, cette phrase. Parce que je travaille souvent à partir d'images mentales. Parce que souvent, je garde les images mentales qui me semblent pouvoir être lues de différentes manières. Et comme vous l'avez dit, l'araignée, bien sûr, la cage, tout ça, ça peut se lire différemment. C'est un conte dans l'histoire. Donc, je garde les images qui résonnent au-delà de mon histoire personnelle, parce que finalement, c'est pas ça que je cherche, mais des images qui peuvent parler à d'autres aussi et qui peuvent dire autre chose.
Comment écrire sur sa vie ? C'est une des questions, et pour tenter une réponse, on va passer par une voix devenue récemment prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, dont vous m'avez parlé, Laura Alcoba. Ernaux qui, à propos de passion simple, présentée par son auteur comme l'inventaire d'une passion, a voulu travailler sur une tranche de vie, somme toute très banale. Elle est au micro de France Culture.
J'ai écrit lorsque j'étais toujours
amoureuse.
Dans cette passion. Oui, j'étais dans la perte de cet homme. C'est-à-dire que l'attente réelle, l'attente de cet homme avait disparu et qu'il n'y avait donc plus que le grand vide devant moi. Et l'écriture a, d'une certaine manière, mais d'une façon extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire je n'ai pas du tout plongé dans la déploration, dans le deuil, dans le romantisme. Rien n'est plus éloigné du romantisme que ce texte, mais de dire ce qu'est la passion. Mais en même temps, il est certain que ça comblait, ça remplaçait l'attente. Et ensuite, c'était aussi une façon de faire quelque chose, on y revient, c'est-à-dire de ne pas avoir vécu cette passion pour rien.
Avec cette question, évidemment, au sol majeur, en quoi l'écriture d'Annie Ernaux, qui entretient des liens étroits avec l'autobiographie, vous a inspiré, Laura Alcoba ?
Énormément. Je suis entrée dans Annie Ernaux après avoir commencé moi-même à écrire, mais c'est une manière d'aborder le matériau autobiographique qui est, pour moi, lumineuse, qui donne un sens à la démarche.
C'est-à-dire ?
Et parce qu'il n'y a pas de narcissisme chez elle. Il y a un petit texte d'Annie Ernaux qui s'intitule quelque chose comme le jeu transpersonnel, c'est-à-dire qu'elle va chercher dans l'intime quelque chose qui a à voir avec le collectif. Et la manière qu'elle a de le dire, mais plus encore de le faire, pour moi a été lumineuse, qui a à voir bien sûr avec ce qu'on a beaucoup dit, c'est la rencontre de la littérature et de la sociologie. La lecture de La Place, notamment, a été un bouleversement.
Son premier roman.
Oui, oui.
Alors, moi, ce qui m'interpelle dans votre cas, à vous, Laura, c'est que vous êtes... Il y a toujours une dimension de conte, mais sur un fond politique, régulièrement, puisque vous revenez souvent sur les terres argentines. Et j'ai remarqué, en exergue des passagers de la Nacée, cette phrase, à la fois, F-O-I, envolée, aux illusions perdues. Et je me suis demandé ce qui restait finalement pour vous, justement, de cet idéal politique et révolutionnaire qui a fait migrer vos parents, cet idéal incarné par le Che, qui refusait tout privilège, même en étant ministre. Cet idéal, est-ce qu'il ne vous a jamais chatouillé, taquiné, rattrapé ?
Non, je m'y intéresse comme je m'intéresse à une matière, parce que c'est le territoire dans lequel j'ai grandi, le territoire, je, au sens, disons, l'imaginaire. Dans
la forêt.
Voilà,
j'ai
la forêt.
J'ai l'image de la forêt quand je vous écoute.
Voilà, c'est le paysage natal, disons. Mais je ne sais pas, je ne pense pas être dans une quête de cet ordre, mais davantage donner une forme littéraire, oui, à tout cela, oui, peut-être.
Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias
en sol majeur, en version originale, non sous-titrée.
Laura Alcoba, pourquoi aimez-vous Caetano Veloso?
Me encanta Caetano, me encanta la manera que tiene de pronunciar el español, pero bueno, me encanta también toda su producción en portugués. La dulzura, la manera que tiene de, creo, de cambiar el ritmo o de hacerlo muy personal.
¿Dans quelle langue parlez-vous à un bébé?
Ah, depende. En español, pero a veces en francés. Puede ser una u otra.
Lorsque vous retournez en Argentine, quelle est la première chose que vous faites?
La primera cosa que hago en Argentina, creo que es tomar mate.
Merci Laura Alcoba pour ce petit moment en VO non sous-titré. Est-ce que vous avez envie de traduire peut-être une des réponses ou... J'ai presque tout compris. Hein.
Oui, je dirais sur Caetano.
Et pas Caetano.
Oui, Caetano. J'aime beaucoup quand les langues se rencontrent. Et là, il a une diction très particulière, une manière très particulière d'interpréter cette chanson qui est une chanson traditionnelle argentine du Nord-Est que je connais par cœur et qu'il interprète de manière différente. Il a un tout petit accent. J'adore les accents, j'adore ça en fait.
Ah bah ça me permet de vous poser la question, où est passé votre accent espagnol?
Mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour l'effacer, donc, mais j'adore les accents.
Et pourquoi cette volonté de l'effacer?
Bah pour passer complètement de l'autre côté, puisqu'il fallait, mais en même temps, j'adore entendre un accent. Et le tout petit accent brésilien de Caetano m'émeut, en fait. Je suis émue.
Alors, vous êtes agrégée de lettres et maître de conférences en littérature espagnole, mais vous n'écrivez toujours pas dans votre langue maternelle.
Oui.
Pour quelle raison?
Toujours pas, je crois que je n'écris pas dans ma langue maternelle, que c'est définitif, je pense, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aborde toujours des sujets, jusqu'ici, où on entend l'espagnol. L'espagnol est là, en sous-texte, où je me connecte à des histoires qui ont eu lieu en espagnol. Mais je les raconte en français.
Vous êtes traductrice par ailleurs.
Et je suis traductrice par ailleurs. Moi, je crois que l'espagnol, même si j'ai une relation très, très forte avec cette langue, ça reste pour moi la langue d'une expérience très particulière liée au silence et à la peur de parler. Et que ça, c'est quelque chose que j'ai pu exprimer en français.
C'est resté la langue de la détention.
Je crois, oui. Et de la surveillance. Les lettres à mon père qui étaient lues et scrutées, où il fallait que je fasse attention à ce que je disais, elles étaient écrites en espagnol.
Donc, cette langue française vous a permis de vous diriez, de vous libérer d'un héritage?
De le formuler, plus que de m'en libérer, parce que je ne lui tourne pas le dos. J'arrive à le mettre en mots, là où, en espagnol, on me disait « Attention ! Attention à ce que tu vas dire ! Attention à comment tu vas le dire !» Et voilà, ce côté « Attention !» j'ai pu m'en dégager en français. Et pour parler de ce moment où je devais faire très attention.
Et c'est là que Florence Delay apparaît. Alors, je savais qu'elle était une femme de lettres importante en France. Elle est membre de l'Académie française depuis 2000. Mais je ne savais pas que... Au cinéma, Florence Delay avait joué Jeanne d'Arc sous l'œil de Bresson.
Pensez-vous qu'il y ait en vous quelque faute ou crime pour lequel, si vous le confessiez, vous puissiez ou deviez mourir?
Non.
Voulez-vous vous soumettre à l'Église?
Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge.
Quelle preuve donnez-vous que vous ayez ces révélations de par Dieu?
Vous pouvez bien vous en passer.
Cela sert au procès.
Passez outre.
Croyez-vous être la grâce de Dieu?
Toute lumière ne vient pas que pour vous. On examine mes réponses. S'il y a quelque chose de mal, je ne soutiendrai pas le contraire.
C'est aussi pour vous inciter à revoir éventuellement ce film en noir et blanc de 1962 avec une Florence Delay magnifique en Jeanne d'Arc.
Magnifique.
Y a-t-il de la comédienne dans la femme de lettres? C'est à se demander. En tout cas, elle vous a guidée, Laura Alcoba.
Oui, je l'ai eue comme professeure. J'étais en maîtrise avec elle. J'étais à l'époque en lettres modernes. Et j'ai travaillé sur la traduction avec elle. Et donc, j'ai découvert son écriture en même temps.
Elle vous a autorisé un entre-deux, même si vous écrivez évidemment en français, mais il y a quand même du passage régulier entre ces deux langues.
Voilà, voilà. Elle-même connaît très bien l'espagnol, puisqu'elle est agrégée d'espagnol, en fait, Florence Delay. Et puis, elle est écrivain. Elle est une très grande autrice. Il y a un texte d'elle qui s'appelle « Di Nerval ». Je crois que nous partageons cette fascination pour Gérard de Nerval. Et c'est à elle que j'avais envoyé « Manège ». Et elle m'a fait un retour de lecture qui a été très important pour moi. Elle m'a reçue chez elle, dans le même bureau où elle me recevait du temps où j'écrivais ma maîtrise et où nous parlions de Ramón Gómez de la Serna. Et d'aller chez elle pour parler de ce texte qui était un texte que moi j'avais écrit, c'était très troublant.
J'aimerais qu'on se quitte avec un extrait de votre nouveau roman intitulé « Par la forêt », donc qui paraît chez Gallimard. C'est l'histoire douloureuse de Griselda, enfant de la Plata, avec des fragments de douleur en elle, tentative de suicide, fuite après le coup d'État de 1976 en Argentine, exil en France, hantée de l'intérieur par une folie qui l'amène au geste fatal un hiver de 1984 et page 109 de votre roman.
Elle va dans la salle de bain. Elle fait couler de l'eau remplissant la baignoire à ras-bord. Elle déshabille Sacha et le plonge dans la baignoire. L'eau coule par terre sur le sol de la salle de bain. C'est qu'elle a mis beaucoup trop d'eau, alors le corps de l'enfant fait déborder le bain. Mouillant ses genoux posés sur le carrelage, puis montant le long de ses cuisses, comme si elle partageait un peu le bain de Sacha. Il faut qu'elle s'occupe de lui, il faut qu'elle le protège, il faut qu'elle mette son enfant à l'abri. Sous ses yeux, là en bas, le mécanisme enclenché à son réveil ce matin-là lui échappe. Griselda est au-dessus de la baignoire, c'est d'en haut qu'elle voit la scène. En haut qu'elle est terrifiée, muette. Mais elle voudrait hurler. En bas, la femme qu'elle voit en est persuadée, il faut qu'elle lave Sacha, qu'elle le préserve. Alors elle appuie sur sa tête, l'enfant se laisse faire, une main sur sa tête suffit.
Et la scène se poursuit quasiment de la même manière pour le petit frère Boris. Et puis la mère tente d'aller chercher à l'école sa fille, Flavia, mais sa tête de naufragée, je vous cite Laura Alcoba, n'incite pas la maîtresse. Dans Par la forêt, donc, vous enquêtez auprès de cette fille survivante et auprès du couple qui s'est occupé de Flavia lorsque la mère se retrouve quelques mois en prison. Qu'est-ce que vous en diriez? Cette enquête sur ce drame familial, est-ce que, selon vous, c'est notamment pour reconstituer, on va dire, le monde d'en haut, celui des adultes, et le monde d'en bas, celui des enfants?
Peut-être. Je ne l'avais pas vu de cette manière-là, mais c'est peut-être une lecture. Cela faisait longtemps que je tournais autour de cette histoire dont j'avais entendu parler. Je ne savais pas si j'étais capable d'aller vers eux, vers ces gens qui ont vécu cette terrible épisode, cette tragédie. Je ne sais pas comment la nommer, la question de comment nommer est présent dans le livre. C'est bien sûr l'impensable qui a été commis par Griselda. Lorsque j'ai fait un pas vers eux, vers la petite fille qui a survécu à ce jour-là, ce jour de folie où la mère a commis l'irréparable sur les deux plus jeunes enfants avant de perdre connaissance. Une petite fille a survécu, effectivement, comme vous dites, elle était à l'école, elle était en classe de CP. Lorsque sa mère est arrivée dans un état second, hors d'elle, trempée des pieds à la tête, pour récupérer sa fille, la maîtresse d'école a dit non. Elle a refusé de remettre l'enfant, Flavia, à sa propre mère. À partir de là, Griselda a sombré, disons, elle a perdu connaissance. Ce qui m'intéressait lorsque j'ai rencontré Flavia, j'ai compris tout de suite qu'ils m'attendaient, les survivants de ce jour-là, et qu'ils avaient besoin que je les écoute et que j'essaye d'écrire cette histoire.
Ils vous attendaient, et peut-être oui. Que la petite fille, Flavia,
oui, c'est elle qui
40 ans aujourd'hui,
oui, absolument.
Vous attendait, comme peut-être oui. La petite Laura, des années. On peut mettre en miroir, en tout cas, quelque chose, oui. Parce que ce n'est pas un texte autobiographique.
Non.
Mais il y a l'Argentine.
L'Argentine est présente.
Et il y a le drame.
Il y a le drame, l'exil est présent aussi. Mais ce qui est présent aussi, c'est le cheminement absolument extraordinaire de Flavia après ce jour-là. Et d'une certaine manière, lors de notre premier rendez-vous, elle m'a dit quelque chose qui pourrait être résumé en substance par « Rencontre ma mère, à toi elle va parler ». Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc j'ai recueilli ce récit, le récit de la mère infanticide, mais j'ai aussi essayé de comprendre comment Flavia avait pu se construire et être la personne absolument lumineuse et solaire qu'elle est aujourd'hui. Et je crois que le livre est tendu vers ce cheminement qui a été le sien.
Vers cet enfant perdu dans une forêt, je rebondis sur votre titre.
Oui.
Par la forêt, vous en faites un conte malgré tout. De ce drame, qu'est-ce que permet le conte par rapport au drame ?
Je crois que quand la réalité est insoutenable, il n'y a que la fiction qui permette de mettre des mots sur ce qu'on ne peut pas regarder en face. Et effectivement, du point de vue de Flavia, donc la fille aînée de cette fratrie et qui a vécu au jour où sa mère a perdu pied, et bien du point de vue de Flavia, sa mère, d'une certaine manière, un jour a disparu parce que donc elle a été emprisonnée, ensuite elle a été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Ses deux frères ont disparu. De son point de vue, elle a cessé de les voir, elle n'a plus mis les pieds dans sa maison, qui était cette loge où elle vivait avec ses parents, qui était concierge dans un lycée parisien. Qu'est-ce qu'on va dire ? Quel mot va être mis sur toutes ces disparitions, sur tous ces bouleversements ? Eh bien, des mensonges, en fait, parce qu'on ne peut pas dire la vérité à une petite fille, sauf par la fiction. Et la fiction, ce qui est incroyable, c'est que les personnes, donc Colette et René, qui sont des personnages très importants dans le livre et qui ont été des personnes essentielles dans l'itinéraire de Flavia, qui sont Colette, c'est l'institutrice qui a dit non le jour où Griselda est venue chercher sa fille alors qu'elle était de toute évidence dans un état qui n'était pas normal, je dirais, pour le dire d'une certaine manière. Eh bien, elle a joué auprès de Flavia le rôle de parent de substitution après ce drame avec son compagnon René. Eh bien, sans le vouloir apparemment, ils ont tous les deux conduit l'enfant vers un coin de la forêt de Chantilly qui parlait à l'enfant de ce jour-là dont les adultes ne pouvaient pas lui parler. Et donc c'est ce coin de la forêt de Chantilly qui donne le titre au livre et qui, moi, m'a permis d'explorer beaucoup de choses, ce que je pense du rôle peut-être de la littérature.
Vous diriez, c'est ma dernière question en sol majeur, Laura Alcoba, que l'écriture, la fiction notamment, mais en tout cas l'écriture vous permet d'entretenir un lien avec cette Argentine qui est devenue une terre confisquée pour vous ?
Oui, entre autres, mais beaucoup d'autres choses. J'ai l'impression que sur la littérature, je perds la boussole.
Merci Laura Alcoba. Chico Buarque, pour reformer les volets.
Oui, ça magnifique, vous va ? Ben, j'adore.
Vous allez m'aider à prononcer le titre magnifique qui arrive, Construir.
Oui, je ne sais pas si je vais réussir, je vais vous aider parce que c'est du portugais, Construção. Je ne parle pas bien le portugais, mais j'adore le portugais. Je le comprends sans le parler. J'adore cette langue et j'adore la musique brésilienne. Donc, je suis ravie qu'on finisse sur Chico Buarque.
amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes só. Olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Pensou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse.
Au générique de cet ensemble majeur, un coup d'État en Argentine, des abeilles, des araignées, Florence Delay en Jeanne d'Arc, Annie Ernoux encore et encore. Tout ça très ensemble majeur et à retrouver en podcast ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on range tout et on ressort tout la semaine prochaine pour accueillir Toufat Moutari. À la semaine prochaine.